Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans On the Verge, un podcast qui parle de sexe au masculin sans tabou ni jugement. C'est une discussion libre d'un homme qui s'ouvre à moi et me raconte tout son parcours sexuel et plus encore. Dans ce 7e échange, c'est William qui s'est raconté. William a eu des crushs avec des filles, des premiers flirts poussés avec des garçons, puis une belle histoire d'amour avec une femme, et enfin, s'est tourné vers les relations homosexuelles. Vous allez écouter comment William a pris son temps pour se définir, toutes les pratiques qu'il a explorer et ses envies de demain. Nous parlerons aussi de son couple, le rapport à la fidélité qu'ils ont l'un et l'autre et quel avenir ils se souhaitent. Je vous laisse avec William et vous souhaite une excellente écoute. William, tu as 34 ans, tu connais le podcast, tu sais comment je vais l'articuler, c'est-à-dire on va parler de ta sexualité avant, tu vas me raconter après ta sexualité aujourd'hui, quelle est-elle, et puis on parlera et on dissertera peut-être de demain.
T'as 12 heures?
Alors non, enfin oui j'ai 12 heures mais il ne restera pas 12 heures, la magie, la magie du montage. Alors William, question que je pose à tous mes invités, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Je pense comme beaucoup, c'était l'environnement proche qui nous a amené à découvrir la sexualité. Moi c'était... j'habitais dans un tout petit village, il y avait plus de vaches que d'habitants. Et par chance, j'avais une voisine jeune, à peu près comme moi, je ne me souviens plus exactement quel âge elle avait, mais avec qui je m'entendais très bien, avec qui je passais mes week-ends, mes vacances scolaires, etc. Et elle s'appelait Angélique, je me souviens. Et ben forcément, comme on passait beaucoup de temps, à un moment donné, quand on se dit, ben, c'est une fille, moi c'est un garçon, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? Et puis on est allé explorer un peu tout ça, quoi.
T'avais quel âge, tu te rappelles?
Oh, je sais pas, j'aurais envie de te dire 5 ans, là, comme ça, mais c'était peut-être 7, comme c'était peut-être 6,5.
Mais jeune enfant.
Pas beaucoup plus vieux, on était vraiment jeunes, mais peut-être même vraiment 5 ans. Mais j'en ai un souvenir, donc du coup je sais pas à partir de quel âge notre mémoire imprime les souvenirs.
4-5 ans, on dit que vers 4-5 ans on commence à avoir une
mémoire. Mais je me souviens qu'on était très jeunes et c'était un peu genre printemps-été, peut-être pendant les grandes vacances, je sais plus trop bien, mais on était que tous les deux et on avait un voisin qui avait un Porsche entre chez elle et chez moi et on s'était caché sous le Porsche comme ça. Et je me souviens qu'elle m'a, montré sa nénette.
Nénette.
Et ouais. Et je sais pas, j'ai pas été trop surpris. Je suis ah oui ok c'est ça. Et je sais pas si j'ai touché, mais j'ai bien regardé. Ça je me souviens, j'ai bien regardé, mais je pense pas qu'il y ait eu réciprocité.
Tu lui as pas montré ton zizi?
Je me souviens pas. Mais en tout cas, on était pas dans un truc forcément sexuel, on était dans un t'es différente. Et en quoi t'es différente? Ben parce que toi, moi j'ai un zizi, toi t'as une nénette. Bon, ben voilà. Et je me souviens de ça. Après, ça restait un petit abricot, hein, tu vois. On n'est pas allé explorer les trucs, on n'a pas les substances, les odeurs, tout ça, on n'avait pas. C'était vraiment très, comme ça, très...
Naïf.
Ouais, très naïf. Okay, c'est ça. Mais en tout cas, ça s'est bien imprégné.
Ça t'a marqué, ouais.
Ouais, ça m'a bien imprégné parce que je me souviens très bien de l'endroit. Je me souviens très bien de ce moment. Et en plus, elle avait un pantalon, c'était galère, quelle idée. Tu sais, des collants qu'on met quand on a 50, c'est des espèces de leggings qu'on appelle maintenant des leggings, mais à l'époque, on appelait ça des collants.
Des fuseaux.
Des fuseaux.
Exactement.
Exactement. Donc voilà, c'était moins une question de sexualité qu'une question de genre, en fait. Mais c'était le genre à travers le sexe. Elle avait ce sexe-là, moi j'avais un autre sexe, et donc du coup, c'était comme ça que ça se passait. Après, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué dans l'instant. À partir de ce moment-là, je me suis pas j'ai pas commencé à montrer mon kiki à tout le monde, et toutes les filles ne se sont pas mises à montrer leur nénette, tu vois.
Et après, t'es à l'école, tu grandis.
Ouais, mais c'est devenu assez vite difficile par rapport à mon placement dans la sexualité. Mm-hmm. Parce que très vite, moi, j'étais très copain avec les filles. Pas mm-hmm. du tout avec les garçons. Je me sentais assez différent de leur façon d'être, leur façon de faire, etc. Et donc, du coup, j'ai pas évolué dans un environnement où les mecs parlaient des filles en disant oh là là, elle a un beau cul, oh là là, elle est mignonne, elle me plaît, j'ai envie de sortir avec elle. Pas du tout. Moi, j'étais dans mon coin et j'étais de la fillette de l'école.
D'accord.
Je pense que j'étais un peu efféminé, que j'étais.
C'est difficile à croire quand on te voit. Hein. T'es grand, t'es carré, t'es barbu.
Les choses changent, tu sais, on s'est évolué.
Le corps évolue.
Non, mais je pense qu'on a les référents qu'on a. Et moi, j'avais des références féminines plus que masculines. Mm-hmm. Et du coup, ouais, bah, je jouais à l'élastique à la marelle. Je jouais moins au foot. Et j'étais gêné dans les vestiaires à l'école, tu vois. Mais j'étais gêné. En même temps, j'avais quand même un peu les yeux qui se baladaient.
Ok.
Je me dis, ah ouais, il se passe un truc.
Et justement, comment ce truc-là, puisqu'on va... On va le déflorer tout de suite, hein, tu es homosexuel.
Ouais. C'est contre nature.
Alors non, on ne dira pas c'est contre nature. Mais justement, donc, tu sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu différent. Comment, à l'éveil de ta puberté, les choses se sont passées ?
Ben, j'ai un peu vécu les choses de mon côté, dans mon coin.
D'accord.
Toute la phase où j'arrive à une sexualité personnelle, elle se fait que grâce à l'observation que j'ai des autres ou de la société à travers les images un peu porno qu'on peut voir, ou en tout cas sensuelles, etc. Et pas du tout avec les copains en disant « Oh, moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça ». Enfin, je n'en parlais pas du tout, j'avais pas de copains avec qui je pouvais en parler, donc ça se faisait vraiment dans mon coin. Et j'étais assez solitaire quand j'étais petit, donc je faisais un peu comme je pouvais. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, que j'étais en vacances, ou enfin les jours où mes parents n'étaient pas là, ils travaillaient, etc. Je fouillais un peu dans la maison et je découvrais des trucs, tu vois, genre des magazines un peu porno, genre des cassettes ou des trucs comme ça.
Les VHS.
Et les VHS.
Okay.
Et j'avais un magnétoscope dans ma chambre,
d'accord.
Ce qui fait que je rentrais la cassette dans la fente du magnétoscope. Et je regardais ça un peu comme un documentaire en me disant « Ah ok, c'est comme ça que font les grands, quoi. » Alors c'est un peu une connerie, puisque pas du
oui.
tout en fait.
Oui,
mais il faut en passer par là. Et,
c'était des images de porno hétéro ?
C'était du porno hétéro.
Donc du coup ça te
ouais,
parlait ?
Ça me parlait oui et non, c'est-à-dire que je pense que j'y trouvais mon compte. Et en même temps, à l'époque, j'étais pas forcément hyper défini non plus. C'est-à-dire
bien
que t'es dans une, on est quand même dans une société où c'est pas forcément facile d'être homo quand t'es jeune. Et peut-être, je sais toujours pas, hein, il faudrait peut-être que je fasse une psychanalyse pour savoir, mais je sais pas si je cherchais à être comme tout le monde ou si vraiment... intérieurement, j'étais aussi intéressé par les filles. Mais toujours est-il que quand je regardais des pornos, ça m'excitait aussi bien de voir un mec s'exciter avec une meuf, et le corps du mec, et sa bite, et son corps, et tout ça, que de voir le plaisir de ses corps qui se mêlent, etc. Je ne sais pas trop bien encore aujourd'hui par quoi j'étais excité précisément, mais il y avait aussi la phase du petit film soft porn du dimanche soir sur M6.
M6.
Moi, j'avais pas M6 à l'époque, parce que j'habitais un peu dans un village vraiment paumé. Mais le dimanche, quand j'étais chez mes grands-parents en ville, et que j'étais en vacances, quand papy et mamie allaient se coucher, j'étais devant la télé et je mettais Culture Pub. Et après, il y avait le soft porn du dimanche.
Ça revient, ça. C'est vraiment la réminiscence.
Et ben oui, parce qu'il y a plus
des
ça.
Des gens nés fin des années 70-80, c'est incroyable. Hein.
Évidemment.
Ça marque toute
une
génération.
Il y a Canal et il y a le soft porn M6. Et le film érotique.
Oui, le film érotique. Ouais.
Et avec des scénarios très élaborés.
Oui, on était sur du cinéma d'auteur.
Oh, on était sur du Frère d'Ardenne un peu. Hein.
Effectivement, oui.
Et je me souviens de ça. Et c'est un peu à cette époque-là que... Ouais, que le plaisir solitaire, la masturbation et tout ça est arrivé. Alors, je sais plus si c'est sur les films érotiques ou des films porno. Toujours est-il que je sais, à l'issue de ma découverte, que c'est sur les films porno que... Enfin, la cassette, je l'ai bien usée, quoi. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'y avait pas Internet et tout à l'époque, donc on faisait comme on pouvait.
Et donc ça, cette adolescence donc assez solitaire, tu parlais un peu de sexualité à la maison ?
Pas du tout. Déjà à la maison, bah, mes parents sont divorcés quand, enfin, se sont séparés quand j'étais jeune. Donc, non, on ne parlait pas de ça. Vraiment pas. Moi, j'étais gêné d'en parler. Et je pense que mes parents n'avaient pas forcément envie d'en parler avec moi.
D'accord, donc ni l'un ni l'autre n'est venu te
parler.
Non,
mon père, je n'étais pas proche de lui, donc je ne sais pas trop. Et ma mère, non, clairement pas.
D'accord.
Vraiment pas. C'était. Non, c'était vraiment hyper solitaire. Même, c'est-à-dire que c'était même pas mes parents. C'est-à-dire que c'était ni mes parents ni personne.
D'accord.
C'était.
Tu
fais ton truc.
Okay,
tu fais ton truc, tu découvres. Après, forcément, t'essayes de faire évoluer la chose, quoi.
Et justement, quand on est au collège, les flirts, comment ça se passe? Parce que t'arrives à un âge après où effectivement. Les jeunes gens, garçons, fils, rapprochent, se dragouillent, commencent les premiers baisers.
Ouais.
Donc toi, tu te définis comment à ce moment-là?
Moi, je suis un sentimental. Je tombe amoureux des filles.
D'accord.
Ouais. Je tombe amoureux des filles parce que, encore une fois, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, mais que peut-être que je me mens. Mais en tout cas, non, je me sentais vraiment proche de certaines filles que j'ai tenté de séduire, sauf qu'à l'époque, c'était plus animal que sentimental. Mm-hmm. Donc, forcément, ça foirait, mais j'étais déjà un grand sentimental. Et j'ai essayé de séduire un peu les filles, etc. Mais comme j'avais cette réputation de fillette et de pédé...
Dans la cour de récréation, t'étais...
Ouais, très vite, okay. Très tôt. Forcément j'étais pas crédible, donc les filles, si tu veux, elles avaient pas forcément envie de sortir avec le PD de l'école, quoi.
Ça doit être assez particulier parce que tu te poses des questions et c'est les autres qui t'apportent des réponses sans toi-même tu saches vraiment tu vois, qui tu es à ce moment-là.
C'est souvent, si tu parles avec des homos aujourd'hui, beaucoup te diront que les autres savaient avant eux, en fait.
Okay.
Alors, parfois, ils ont tort, mais parfois, ils ont raison. En l'occurrence, pour moi, ils ont raison, sauf que je me défendais de ça parce que je trouvais injuste qu'on me juge sur des faits qui n'étaient pas avérés.
En plus,
avérés.
Pour le coup, oui, tu avais passé.
Et puis, moi-même, je savais vraiment pas, quoi. Et je pense pas avoir eu envie de me couvrir ou de me protéger de ça. Mais en l'occurrence, ouais, je suis tombé amoureux de quelques filles que j'ai essayé de draguer et elles se foutaient complètement de ma gueule, quoi.
Ouais,
même du genre, ouais, puis on s'appelle le soir, etc. Puis en fait, elles avaient toutes leurs copines autour qui écoutaient la conversation.
Ah oui, donc en plus,
ouais.
Avec cette intelligence de l'ado.
De l'ado.
Aïe, l'effet de groupe.
Mais voilà, après, j'ai testé des choses. J'ai testé avec les filles.
Donc t'es quand même sorti avec des filles?
Plus tard, beaucoup plus tard.
Plus tard, donc
au lycée,
ok. Ouais.
Au lycée, je suis sorti avec des filles.
Mais donc ton premier baiser, c'était une fille?
Ouais.
Ok.
Premier smack.
Okay.
Pas le bon roulage de pelle, tendre et. Non, le smack dans la cour d'école pour dire allez, vas-y, tu fais un smack à Alex, quoi.
Ok.
Voilà, je l'ai fait. Sans grande conviction, mais je l'ai fait. Mais en revanche, je me souviens d'un copain. C'est où, bah, quand t'es copain, tu t'invites à dormir chez l'un, chez l'autre, quoi. Et donc, il m'avait invité à dormir chez lui. Et je sais pas si lui, au départ, il y avait un truc volontaire ou pas, s'il était attiré ou pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on s'est retrouvés un soir à dormir chez lui. Et t'as le lit du copain dans sa chambre, puis t'as le matelas à côté. Hein. Voilà. Donc moi, j'étais sur le matelas. Et je sais plus trop bien comment ça s'est passé... On s'est assis, je me souviens. Et attention, c'est grivois. Je crois qu'on bandait tous les deux de notre côté, tu vois. Et on faisait du bruit avec nos bites. Tu sais, on les faisait rebondir sur notre ventre ou un truc comme ça pour bien faire entendre à l'autre
qu'il se passait un truc.
Et puis au final, il m'a dit, bah viens, tu vas pas dormir sur le matelas. En fait, mes parents, ils ont mis ça, mais c'est con, j'ai un grand lit. Tu viens, mais tu te mets tout nu.
Ok, donc tu t'es exécuté.
Okay. Donc je l'ai fait, content un peu quand même.
Bien sûr.
Parce qu'il se passait quelque chose, tu vois. Tu mets une réalité sur ce que tu as toujours fait tout seul ou vu en vidéo, tu vois. Et ça s'arrêtait là.
Donc j'étais tout nu à côté de ce garçon.
J'étais tout nu dans le lit à côté de ce garçon et on a dormi dans le même lit. Mais il ne s'est rien passé.
D'accord.
Mais je pense que ça, lui, n'était pas du tout officiellement homo. Il était même considéré un peu comme un séducteur de meufs, tu vois, à l'école. Mm-hmm. C'était vraiment un peu le tombeur.
Rigolo.
Comme quoi, il y a des... si certaines nous entendent aujourd'hui, elles auront des déceptions. Mais le lendemain, on a fait un jeu de cartes, tu sais, et avec des gages. Donc okay. Le gagnant enlève une fringue. Enfin, le perdant enlève un vêtement ou un truc.
Poker,
sauf que les parties crapette. Ont... Exactement. Sauf que des parties se sont multipliées et on a fini par être à poil. Et puis finalement, on fait quoi? Le perdant touche un peu l'autre, machin, etc.
Ah oui. Ah, le séducteur.
Ouais.
Ok. Et ça, c'est ton premier contact avec un autre corps masculin.
Ouais. Premier contact avec un autre corps tout court.
Oui.
Parce que j'avais, à part le smack, j'avais pas eu de contact avec des filles. Enfin, sauf Angélique sous le porche de mon voisin
oui,
à 5 ans.
Oui, c'est vrai, ça remonte mais... 10 ans plus tard, donc voilà. Avec le tombeur.
Ouais. Mais c'était ça, le premier contact avec un... Toutes mes premières fois ont été avec un mec, en fait.
Et donc, du coup, vous êtes touchée.
Ouais.
Et jusqu'où vous êtes allée?
Je me souviens que sur ce week-end-là, on est allé jusqu'à se sucer. Enfin, moi, je l'ai sucé.
Ah oui.
Ouais.
On est sur
un
jeu de cartes.
J'en magasinais. Au bout d'un moment, il fallait acter le truc.
D'accord. Et ça s'est fait.
Ça s'est bien passé. Hein. J'ai bien géré le truc.
Ok.
Je pense que lui l'a moins bien géré. Parce qu'il n'y a pas eu de réciprocité, tu vois. À la partie suivante, il a perdu. Et,
et en fait,
j'ai pas eu ma
pipe. On va prendre le goûter.
Non,
quoi.
J'ai pas eu le truc.
Ok.
Donc voilà, mais on s'est pas arrêté là. Il est venu à lui à dormir à la maison. Mm-hmm. Et là, c'est lui qui a perdu.
Qui a perdu. C'est joliment dit. D'accord. Et donc là, c'est lui qui t'a sucé. Et ça a été, j'imagine.
On n'est pas allé jusqu'à l'orgasme. On n'est okay. pas allé jusqu'à l'éjaculation. On était vraiment dans la découverte du corps. Et en plus, il y avait le bonus du « lui découvre le corps d'un homme qu'il n'avait jamais... » Moi, j'avais imaginé des trucs,
oui.
etc. Je pense que lui découvrait...
Tu projetais
lui découvrait le fait qu'il puisse être attiré par le corps d'un homme en même
il
temps.
Il l'a géré là. Comment?
Écoute, je pense qu'il l'a géré plutôt bien parce qu'après, on a eu des... Lui est parti du lycée. Mais on a continué. Non, il n'est pas parti du lycée, il était encore à l'internat au lycée, parce qu'il habitait loin et tout, enfin bref. Mais il était à l'internat. Et moi, dans ma classe en seconde, j'avais un mec qui était avec lui à l'internat et on s'échangeait des lettres, un peu cul, via ce mec, qui, à mon avis, a dû lire ses lettres.
Mais
nous, très naïfs, on imaginait que
scellé.
Non, tu vois, on avait scellé des enveloppes, on avait mis des lettres dans les lettres,
okay.
plein de trucs qui pouvaient.
Ah oui, donc vous avez créé quand
etc.
même une relation.
Ouais, mais vraiment, pour dire... Enfin, on n'imaginait rien. On n'imaginait pas que ça puisse être une relation amoureuse ou quoi que ce soit. On s'était amusés ensemble. On ne se voyait plus, mais on avait certainement envie d'avoir cette excitation qui continue. Mm-hmm. Et du coup, on se racontait des trucs un peu cochons par lettre interposée via ce
oui,
garçon.
Alors la lettre interposée, c'est l'ancêtre des SMS. Hein, pour
eh ben ouais.
les gens un peu plus jeunes.
C'est vrai, mais moi, j'avais un portable et pas lui.
Ah oui, bah oui, enfin...
Donc,
la connexion était compliquée.
C'était compliqué.
Ok.
Donc je pense qu'il spignolait sous la couette à l'internat en lisant mes lettres, alors que moi je faisais chez moi quoi.
Ok. Incroyable. Donc ça a duré.
Bah ça a duré un an, hein, tu vois, okay. 6 mois, un an.
Et là tu savais que tu étais homo.
Pas
et
du tout.
Pas
parce
du
qu'après
tout.
Je suis tombé amoureux d'une fille.
Ah ok. Facile.
Eh ouais.
Faut suivre.
Eh ouais.
Donc là t'es au lycée à ce moment-là.
Je suis au lycée. Et je crois que je suis en première là, et je suis tombé amoureux d'une fille, mais elle était en terminale, et au moment où moi j'étais en terminale, elle partait faire ses études dans une grande ville à côté.
Vous êtes sortis ensemble ?
On est sortis quelques mois ensemble, mais on s'est vite rendu compte que c'était plus... Enfin, elle a mis fin au truc, parce que je pense qu'à cet âge-là... les relations à distance, alors que ça fait que quelques mois qu'on est ensemble, enfin, c'est
oui.
pas gérable.
Ouais,
et puis,
c'est
voilà. Et puis peut-être qu'elle
n'était
pas plus amoureuse que ça. Moi, j'étais encore une fois très, très amoureux sentimental. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à la ken tout de suite. Quoi, tu vois. Je ne me suis pas dit, oh là là, je suis avec une fille, tiens, je vais la ken. Non, j'avais envie de lui faire des petits cadeaux, qu'on fasse des sorties. Donc, je ne sais pas trop bien comment, encore une fois, tiens, hashtag psy, il va falloir que je gère ce truc.
Mais alors, du coup, il s'est passé quoi avec elle?
Eh ben, il s'est passé des balades, des trucs jolis, okay. Des bisous, des on se plotte un peu, tu vois, dans ma voiture, dans la voiture.
Et ce corps féminin alors ?
Mais pas désagréable du tout. Moi, ça me rebutait pas. Enfin, c'est-à-dire que c'était D'accord. pas du tout un. Encore une fois, ça m'attirait. Ça m'attirait. Ses longs cheveux. Ça m'attirait. Okay. Mais j'avais pas ce besoin animal de coucher avec elle, alors que quand je me retrouvais à côté d'un mec,
c'est beaucoup plus,
c'était plus ça que les sentiments d'ailleurs.
D'accord.
C'était plus, t'as vu la VHS, tu fais la même chose mais avec un mec. Alors que, quand tu regardes les films d'après-midi sur M6, les comédies romantiques, t'as plus envie de le faire avec la fille, tu vois.
Longue balade à vélo, etc.
Près du lac, le week-end, déjeuner, tout exactement. Ça.
Okay. D'accord, donc t'as cette histoire, donc c'est ta première histoire d'amour, elle.
Oh, je ne sais pas si j'étais amoureux, ce serait beaucoup dire. Non, ce n'est pas ma première histoire d'amour. Ma vraie première histoire d'amour, elle est connectée à ma première relation sexuelle avec une fille.
D'accord. Mais tu disais que toutes tes premières fois étaient avec un garçon. D'accord.
Première fois avec un garçon, mais ma première relation sexuelle avec une fille,
d'accord.
C'était mon premier grand amour.
Que tu rencontres après le lycée ?
Ouais, que je rencontre pendant que je fais mes études. Je pars dans une grande ville faire mes études. Et là, je me retrouve dans un lycée technique. Et là, il y a un mec qui me drague.
Ok.
Qui se la joue. Alors lui, qui est ouvertement homo, etc., machin, qui, je pense, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Et moi, j'ai mon studio à Lille. Et il me drague. Il habite pas loin de chez moi. Et on se parle sur MSN, tu vois. Ben ouais. Et il tente des trucs, et moi, je sais pas, mais ça, d'instinct, je me suis braqué tout de suite. Mais non, pas du tout, mais pour qui tu me prends, n'importe quoi.
Genre je ne suis pas homo.
Je suis pas homo. Peut-être que j'avais envie de me protéger de cette réputation que t'as j'avais pas. Ouais. C'est-à-dire que j'arrive dans une école où j'apprends mon métier, et j'ai pas cette réputation-là.
Donc, que tu traînais au collège, en plus.
Voilà. Donc, j'ai pas envie de me retaper cette image-là. Même si les gens sont plus matures et que je pense que ça serait pas arrivé. Mais il me drague. Et je sais plus trop bien comment, mais j'ai cédé. Je sais plus pourquoi, je sais pas comment, sur un malentendu. J'ai cédé. Il est venu passer la soirée à la maison. Et on a flirté. Et puis, il m'a initié, quoi.
Donc, avec lui, t'as eu ta première relation.
Ouais.
Ok, ça s'est passé comment ?
Écoute,
tu vas jusqu'où tu veux. Hein, j'ai appliqué. Les
non, mais il y a aucun problème. J'ai appliqué ce que j'avais vu. J'ai appliqué. J'ai fait comme dans les films. C'est-à-dire qu'il était.
Les films porno.
Ouais.
Hétéro.
Ouais.
D'accord.
Enfin, je me suis dit bon ben c'est ma première fois. Comment on fait ? Alors, il m'a guidé beaucoup. Il était très attentionné. Il n'était pas du tout en mode « t'es ma chose et je vais te niquer ». Mais je me suis donné. C'est-à-dire qu'il était plus en position de passif et moi d'actif et moi de passif.
Okay.
Il a été très étonné d'ailleurs de cette performance.
Pour l'histoire.
Il me l'a dit. Non, mais il m'a dit, non, pour une première fois.
Oh, tu sais, je me suis documenté.
Franchement, bravo mec.
Okay.
Et ça a été très... tendre et à la fois agréable.
Ok. Et ça a été une révélation pour toi à ce moment-là ?
Non.
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 Ok.
Non, c'était très agréable, mais j'ai pas eu envie de continuer la relation. Parce que déjà, je pense que j'avais ce truc de c'est pas le moment. Enfin, j'ai une formation qui me plaît, j'ai envie de bosser, j'ai pas du tout envie d'avoir une histoire d'amour. Ouais, t'es un peu excité par un mec, tu te le fais, on l'a fait. Et voilà, peut-être qu'on l'a refait deux ou trois fois d'ailleurs. Mais sur un temps très long, tu vois, pas dans la semaine qui suivait. Mais voilà, mais je pense que lui aurait bien aimé continuer. Mais moi, j'étais pas du tout open à ça. Donc, c'était cool. J'ai appris ce que c'était. Mais je l'ai mis de côté pendant un certain temps.
D'accord.
Et voilà. Et je faisais des petits boulots. J'étais animateur en colo. Donc, pendant les petites vacances, etc., les grandes vacances scolaires et tout ça, je faisais des colos.
Tu dis encore les petites vacances. Hein. C'est vraiment le mono BAFA, ça. Petites vacances.
Oui. Pendant les vacances, comment tu dis, toi ?
Je ne dis pas, je n'ai pas de
vacances. On ne dit pas. Eh bien, pendant les petites vacances. Mais là, en l'occurrence, ce que je vais te dire, ça s'est passé pendant les grandes vacances. Donc, tu pars en colo, c'est-à-dire que tu pars une semaine ou deux semaines ou
j'étais
trois semaines.
J'étais moniteur aussi.
Ou même enfin, deux mois, tu vois. Et tu te retrouves avec une équipe, et directeur, animateur, les enfants, etc. Et bah, tu te fais des potes, quoi. Pendant,
ouais,
parce que t'es en autarcie pendant...
Ah oui, je me rappelle, t'es en huis clos et ça, c'est quand les enfants sont partis se coucher, il y a une autre
c'est
vie.
Ça. C'est ça.
J'ai vécu aussi.
Il y a des réunions, il y a de cinquième repas après la
bien
réunion.
Bien sûr,
tu
bien
vois,
sûr.
Voilà.
Oh là
mat,
là.
Machin,
que
etc.
de souvenirs. Et j'ai une pensée émue, moi, pour les gens avec qui je suis partie à Lille, tu dis.
Ou pas, hein, ou pas.
À Lille, tu dis, en Bretagne.
À Lille, tu dis.
Oui, c'est d'accord. En face de Locke, tu dis, les vrais savent, les Bretons savent.
Très bien. Ouais. Les vrais savent.
Exact.
Et ben, moi, j'étais, je ne sais plus où, dans un coin paumé où ben, il y avait une colo avec une directrice avec qui j'avais déjà bossé avant. Qui avait la réputation d'être un peu ouverte à tous les vents, tu vois.
Et ça va bien avec la Bretagne.
Et ben, j'arrive mon jour de congé, parce qu'on a un jour de congé par semaine, et ça tombe pile poil pendant le sien.
Coïncidence.
Donc,
ça.
Du coup, le soir après la réunion, on fait oh, je suis en congé, t'es en congé. Mais le jour de congé tombe à point nommé, et je pense qu'on arrivait un peu au bord de l'explosion, et on s'est un peu lâché sur cette nuit de premier jour de congé.
D'accord.
Et
donc là, tu fais l'amour avec une femme.
Ouais, pour la première fois.
Et
en colo.
En colo.
Totalement défraîchi.
C'est ça, parfait.
Après 15 heures de non-sommeil.
Bam. Est-ce que là, ta prestation était aussi...
Écoute, faudrait lui demander, mais on est restés 2 ans ensemble.
Eh bien, la voici. Bien sûr.
On est quand même resté. Non, on est resté 3 ans.
Donc vous êtes resté 3 ans ensemble.
C'était le début de mon premier grand amour.
Donc ça, c'est une très belle histoire.
Ouais.
Ok.
On est resté 3 ans ensemble. Moi, j'étais encore en train de faire mes études à Lille. Elle était de Paris. On se voyait tous les week-ends. On faisait des allers-retours entre chez elle et chez moi. Elle était plus âgée.
Et t'as quoi? T'as 20 ans, à peu près, un peu plus.
Ouais. 19, 20 ans.
Ouais,
premier
okay.
rapport avec une fille, 19 piges. Et voilà, en fait, la colo se termine, on n'a pas du tout envie de se quitter.
Mmh.
Et elle me le dit. Moi, je pense que j'aurais jamais fait le premier pas, mais elle me le dit que voilà, elle est amoureuse et que ce serait bien qu'on se revoie et tout. Et je suis assez d'accord avec ça. Elle est plus âgée que moi. On a 7 ans d'écart. Elle travaille à Paris dans un hôpital et moi, je continue à faire mes études, donc on se voyait le week-end.
Tu lui parles de tes expériences homosexuelles avant ?
Pas du tout.
Je
ressens pas le besoin parce que on n'a pas instauré ce. Enfin, elle m'aurait posé la question, je l'aurais peut-être dit.
Donc tu lui aurais pas menti, oui.
Je l'aurais pas menti, mais elle m'a pas posé la question et moi j'ai pas ressenti le besoin de lui dire ça. En tout cas, pas dans les premières années.
Mmh.
Parce que, enfin voilà, c'est un amour hyper fusionnel que quand on se voyait, on était à la fois hyper amoureux, à la fois hyper bestiaux. Enfin, tu vois. Elle arrivait le vendredi soir chez moi à Lille et on quittait pas le lit jusqu'au samedi soir, quoi.
Et donc justement, sexuellement, j'allais te demander comment ça se passait.
C'était fou.
Ouais.
C'était fou, c'était bien, c'était...
Elle avait plus d'expérience puisque...
Ouais, c'est peut-être ça qui fait que je kiffais parce que j'apprenais des trucs. En même temps, elle savait comment s'y prendre.
Mmh.
Moi, j'étais hyper novice et en même temps, j'avais pas envie de me la jouer hyper novice, donc j'essayais de...
Elle savait que t'étais vierge, enfin...
Non. Mmh. Non. Elle savait pas que c'était la première. Elle l'a su plus tard.
Mmh.
Mais sur les premiers mois, elle pensait pas. Parce que j'étais quand même assez fort, je pense. Ça se voyait pas. mais c'était, non, c'était génial parce qu'elle m'apprenait des trucs. Elle avait beaucoup d'expérience, elle avait été aussi assez libre, elle, mmh. elle avait une enfance hyper libre, elle me l'a dit, et donc elle a testé plein de trucs,
okay.
notamment de cul, et c'était cool parce que j'en bénéficiais, quoi. Elle me faisait des trucs dans tous les sens, ça partait, elle est où la tête, et enfin tu vois...
Rock'n'roll acrobatique.
Entre autres, non mais c'était super, parce... et puis moi je j'attendais le week-end avec impatience, tu vois.
Moi, j'imagine. Et donc, cette relation, elle dure 3 ans.
Ouais.
Pendant 3 ans, tu ne penses pas du tout avoir des relations avec des hommes, les hommes t'attirent pas, comment ça se passe ?
Pendant les deux premières années,
on est tellement conditionné, tu vois, c'est l'un ou c'est l'autre, qu'on se dit, bah tiens, si attends, parce que tu ne t'es pas défini comme bisexuel.
Non.
Donc c'est là où est ma question, c'est qu'effectivement.
Mais tu sais, on met du temps à se définir.
Ah, je pense aussi, oui.
Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que ça s'est défini pour moi. En fait, on vit pendant 2 ans et demi cette relation à distance, à savoir les week-ends et pendant les vacances. Et arrive le moment où je termine mes études, où j'ai un contrat qui démarre à Paris et où je m'installe à Paris. Donc on décide de s'installer ensemble. Et donc on prend un appart et tout ça.
Donc vous prenez un appart au bout de 3 ans de relation.
Au bout de 2 ans et demi de relation. Ok. Ouais. Et on s'installe ensemble et là le quotidien débarque.
C'est le bruit du quotidien.
Le quotidien débarque et mais pour moi, si tu veux, à part le fait d'être un peu fatigué, donc de moins baiser, je vois pas trop de différence. Je suis autant amoureux, je suis autant accro, on a plein de projets, il se passe plein de choses dans nos vies et je suis très content de ce qui se passe. C'est juste que, effectivement, comme tout le monde, bah, quand tu bosses toute la journée, elle bosse avec des enfants, c'est épuisant, machin, se lève hyper tôt, on arrive le soir, on est un peu crevé. Donc on baise moins, ouais.
Et puis la vie parisienne.
Et la vie parisienne et tout ça. Mais on se pose pas trop de questions, on n'a pas de doute sur notre amour. Et puis moi, je sais pas, donc je suis moins fusionnel physiquement avec elle, on baise moins. Mais c'est un état de fait, c'est pas une envie, c'est pas un désir, c'est pas un éloignement. J'ai pas de dégoût pour elle. Oui, oui. Mais par ailleurs, moi, je découvre un site qui s'appelle Badou, sur lequel les gens sont plutôt un peu chauds, tu vois, les filles, les mecs et tout ça. Et je tombe sur des profils de mecs, en fait, qui mettent des photos d'eux à poil et tout ça. Et je fais « Ah !»
Et là, ça te fait quelque chose.
C'est sympa. Tiens, si je me connectais. Oh, puis tiens, si je me reconnectais. Oh, tiens, si je créais un compte.
Okay.
Et j'ai créé un compte. Mais sans avoir envie d'aller plus loin.
Il n'y avait pas d'arrière-pensée.
Il y avait ce côté très voyeur. Je suis un peu voyeur sur les bords. Et je voulais juste avoir mon petit jardin secret et m'exciter comme si c'était un porno, tu vois. Tu mates un porno, tu mates des photos de tub sur internet, c'est kiff-kiff,
ouais,
sauf que ce que je pense que ce qui m'excitait, c'était pas d'aller sur un site et de voir des acteurs gays, c'était de voir des mecs comme
de la vraie vie,
comme moi, comme mes collègues, etc., montrer leur queue sur internet. Voilà, c'était ce côté un peu je m'exhibe, tu vois, mais ça n'allait pas plus loin. Mais très vite, elle a découvert. Et là, ça a été en enfer total parce qu'elle a battu quoi ? Elle m'a foutu dehors.
Donc, elle a découvert que tu avais créé ce compte. Elle découvre que tu vas regarder des photos de mecs à poil.
Ouais.
Et elle te pose des questions. Parce que là, donc là, elle a quasi, si vous avez 17 ans d'écart, elle a presque 30 ans, elle. Donc, elle a quand même un... Enfin...
Moi, j'ai 23 ans à ce moment-là.
Ouais, elle en a 30.
Elle en a 30. Elle ne se pose pas de questions. Je l'ai totalement trahi. Elle est vrille totale.
Elle te reproche quoi, en fait ? De ne pas lui avoir dit ?
Elle me reproche de ne pas lui avoir avoué que j'étais homo. Sauf que je ne l'étais pas.
Ok.
J'étais très amoureux. Tout se passait très bien. Et ce n'était pas une couverture.
Elle
s'est sentie hyper trahie. À tel point qu'en fait, elle me réveille en pleine nuit pour me dire qu'est-ce que c'est que ça. Elle avait imprimé des photos qu'elle avait placardées dans tout l'appartement. Oula. Elle avait convoqué sa mère. Il était 4h du mat. Il y avait sa mère, la voisine de sa mère.
La voisine de sa mère. Pourquoi la voisine de sa mère?
Je ne sais pas. Écoute, il est 4h du mat. Il est 4h du mat. Je me retrouve en caleçon dans le salon devant 3 meufs qui disent « Dis-le que t'es pédé ». T'as pris ma fille pour une conne, machin. C'est quoi ces photos? Et là, il est 4h du mat, tu comprends pas ce qui t'arrive et tu ne sais pas te défendre. Et au final,
et
à part dire...
te défendre de quoi, enfin...
Te défendre de... Voilà, te défendre de quoi, parce que t'as pas à te défendre, t'as pas... La seule erreur que t'as faite, c'est peut-être de pas t'être excité avec ta meuf.
Sur ça.
Enfin, et peut-être d'avoir pris d'autres
supports d'excitation.
D'autres supports pour t'exciter. Mais c'est tout.
Comme
et
tu
en
l'as
même
dit,
temps,
c'est ton jardin secret. Enfin, on n'appartient pas l'un à l'autre.
Voilà,
on a
tous notre jardin secret.
Sûr.
On s'excite avec ce qu'on veut du moment que du moment qu'on continue de d'avoir du plaisir avec l'autre aussi et que oui. c'est pas enfin voilà, il y a une évolution et en 3 ans,
23 ans
en 3 ans ça évolue et moi j'ai évolué comme ça mais sans avoir l'idée de la trahir du tout. Pour moi c'était un film porno ce mmh. truc. Et j'ai et je me suis retrouvé devant ce tribunal où tu dis OK, là ça va partir en vrille. Elles sont parties, elles m'ont laissé tout seul dans l'appartement en me disant là maintenant tu fais tes valises et tu t'en vas, sauf que j'ai absolument pas voulu faire ça. Et puis elles sont revenues le soir, elles ont foutu mes affaires dehors et c'était la fin d'une histoire.
Tu aurais, c'est dur, hein. Tu aurais fait la même chose avec des femmes, tu penses que ça serait passé pareil? Elle aurait trouvé, tu vois, des photos.
Je sais pas
elle
du tout.
Elle aurait été juste. Entre guillemets, je mets des guillemets.
Peut-être, trahi. Peut-être qu'elle aurait été assez ouverte d'esprit pour comprendre que potentiellement m'exciter sur un visuel d'une autre femme, ça aurait été normal pour un mec parce que finalement, ça on regarde tous le menu, on n'est pas forcément obligé de bouffer. Mmh. Ben moi, peut-être qu'elle aurait accepté ça de moi. J'en sais rien. Toujours est-il que.
C'est l'incompréhension pour elle quand de savoir.
Ouais, alors que je te dis, à part le quotidien, on continuait à baiser, c'était fou et mmh. on s'était acheté des petits accessoires, tout ça. Enfin, mmh. c'était, on faisait des efforts, tu vois, pour vraiment maintenir tout ça, alors qu'il y avait pas même pas forcément d'efforts à.
Après, ouais.
On essayait juste d'évoluer sur
dans
notre vie sexuelle.
En tout cas, hyper libre.
Ouais, franchement, c'était cool.
Et t'as été surprise de ça, de cette réaction aussi violente?
A posteriori, ça me surprend pas parce que connaissant son histoire, je sais qu'elle a voulu se protéger parce qu'elle a eu des histoires pas faciles avant moi et que je pense que c'était tellement fusionnel entre nous, comme toutes les relations fusionnelles, dès que t'as un grain de sable qui arrive, ça devient un drame. Et je pense que ce grain de sable là,
qui s'est émissé entre vous,
ouais, ça a tout cassé.
Elle a dû perdre une grande confiance en. Ouais. Au-delà de toi, l'individu, j'imagine qu'il y a aussi. Il s'est passé un truc dans votre dualité, quoi. Il y avait, enfin, tu vois, vous étiez très soudés et du coup.
Ouais, peut-être qu'elle a découvert un secret. Peut-être qu'elle n'imaginait pas que j'avais des secrets, qu'elle
ouais,
a découvert un
ça.
Secret de cette nature. Peut-être ça aurait été autre chose, ça aurait été pareil. Encore mmh. une fois,
ouais,
je sais pas.
Pas refaire l'histoire.
Mais ça a été la fin de quelque chose. Mais ça m'a permis aussi moi d'évoluer. Peut-être que aujourd'hui j'aurais deux enfants, je serais dans un pavillon en banlieue avec un 4x4 qui pollue
et un labrador
et un labrador, mais ma vie à ce moment-là a pris un autre tournant.
D'accord, donc là tu vas te retrouver avec tes fringues et ta trousse de toilette sur le palier. Tu fais quoi?
Ouais. J'appelle une amie.
Ouais. J'appelle un ami. Parce que le public était dormait à 4h du mat.
J'appelle une de mes amies d'enfance qui habite Paris et elle m'héberge pendant une semaine et puis okay. Après je prends le relais chez ma tante mmh. qui habite Paris et après enfin j'emménage tout seul.
Ok. Et là dans ta vie, bon, j'imagine le chagrin était présent parce qu'une histoire de 3 ans aussi fusionnelle que tu as, enfin comme tu as eu ça, tu es difficile de voilà d'arrêter des pensées du jour au lendemain. Du coup, t'es à Paris. Tu termines tes études, enfin tu travailles?
Je travaille. En fait, moi je suis arrivé à Paris pour travailler, donc mon D'accord. seul cercle, c'était le travail et elle.
Ah oui, effectivement.
Et je me retrouve avec mon travail et sans elle, pas d'amis forcément sur Paris.
À part cette amie, oui.
À part cette amie. Là, tu reconstruis tout. Tu reconstruis ta vie sociale, tu reconstruis tu te mets à fond dans le boulot. Mmh. Et puis t'y vas. Et donc quelques mois passent et je retrouve 2-3 connaissances que j'avais eues à l'époque où j'avais fait des stages dans Paris et je me lie d'amitié avec ces gens. Et c'était une fille qui avait beaucoup d'amis PD.
Ok.
Beaucoup d'amis gays. Et je commence à découvrir ce milieu que je connaissais pas en me disant ah, ok. Donc c'est si facile d'accès et c'est possible et c'est pas stigmatisant
et ça se passe bien.
Et ça se passe bien et c'est pas caricatural et ils sont pas à quatre pattes dans la rue avec une plume dans le cul comme on voit à la télé. c'est pas la Gay Pride tous les jours, c'est des gens normés, c'est des gens équilibrés. En fait, on se fout bien de notre gueule à la télé quand on parle des homos.
C'est clair. Tout le monde n'est pas
Michou. 2000, Michou est gay.
Pardon.
Merde.
C'était un secret si bien gardé.
Et donc je me retrouve avec ces gens. avec ces potes-là, que je vois souvent, qui évoluent dans le milieu artistique parisien, qui sont chanteurs, danseurs, okay. comédiens et tout.
Des artistes quand même.
Ouais. Ouais, et puis moi, je bosse à la télé. Alors, du coup, il oui. y a des choses qui se rejoignent. Et je me dis que c'est possible. Enfin, c'est même pas que je me dis, j'ai pas une prise de conscience directe en me disant c'est possible. C'est ok, c'est comme ça. Et là, je découvre l'envers du décor du milieu gay, c'est-à-dire la facilité sexuelle, la facilité du contact, les applis, les Grindr, Scruff, Hornet, tout ça, quoi. Toute la collecte. Et tu découvres ça, les boîtes. Enfin, voilà. Et là, ça t'éveille. Tu dis, ok, là, on passe dans un autre monde.
D'accord.
Mais qui est cool aussi.
Et t'arrives à te situer à ce moment-là ?
Ben à ce moment-là, je me cherche, donc je teste des choses.
D'accord.
Donc, je m'inscris sur des sites de rencontres, je parle avec des mecs. Alors, forcément, je dis pas que je laisse la porte ouverte et que les mecs débarquent chez moi et qu'on ken toute la nuit. Parce qu'il y a aussi des codes dans le milieu gay. Il y a des trucs qui se font pas forcément partout. Je parle pas des BDSM et tout ça, mais pas tout de suite en tout cas. Mais il se passe des trucs, quoi. Et je comprends. Moi, je suis, encore une fois, on se souvient que je suis un peu un sentimental et tout. Et je découvre qu'il y a des mecs qui viennent, qui baisent et qui repartent. Mais ça, c'est pas. Là, pour le coup, c'est pas bien moi, quoi.
Non, merci, monsieur.
Merci, mais non, merci. Et donc voilà, et puis qu'il y a des codes, il y a des muscle bear, il y a des bears, il y a des skinny, il y a des mecs qui aiment les poils, des mecs qui aiment pas les poils, enfin tout ça c'est abstrait pour moi, tu vois. Et puis moi je sais pas qui je suis physiquement, tu vois, moi je me sens hyper gros alors qu'en fait je l'étais pas du tout. Je me sens pas poilu alors que j'étais poilu, enfin
oui, t'as besoin de te
repérer un peu dans tout ce marasme du
Et dans ton, enfin là, je comprends très bien alors, l'exploration, etc. Mais de ton histoire d'amour avec cette femme, tu t'es pas à ce moment-là quand t'es tout seul, qu'effectivement tu découvres le milieu gay, tu ne te dis pas que t'as envie de rencontrer une femme. Là, tu vas vers les hommes.
Non. Je pense que j'ai envie de tourner la page temporairement des femmes. J'ai été hyper blessée et tout ça, et là, je découvre un truc qui me plaît, quoi. Et j'ai envie d'y aller.
Et qui vient presque à toi, du coup, parce que...
Ouais, j'ai envie d'y aller. Les mecs te séduisent, ils disent que t'es beau. Tu te rends compte que tu peux baiser avec un mec dans l'heure si t'as envie.
La demi-heure, c'est vraiment ça à côté, en métro.
La demi-heure, si c'est sur la ligne 5. Donc c'est cool, parce que tu dis, ok, là, c'est si facile. J'ai envie, je peux. Alors là, j'ai pas vraiment envie. Après, ça, c'est bien... Une fois que ça a été, tu vois... Qu'on a lâché ouvert les vannes.
Bam.
Bam. Mais au début, non. Je me souviens de me retrouver dans mon petit appart qui était un peu une cage à lapins dans Paris et de parler avec des mecs qui disent viens, j'arrive. Et moi, tu dis oh putain, j'ai pas fait ma vaisselle, la honte et tout. Mais les mecs s'en foutent de ça.
Hein. Oui, oui.
Ils viennent et ils regardent pas. Non, oui. ils te baisent.
Même ton prénom, finalement, ils
s'en
fichent.
C'est ça. Et je l'ai fait une fois et ça m'a pas plu du tout. Le truc Fast and Furious, tu vois. Le mec débarque, toi, t'avais un peu fait le ménage et tout, t'as pris une douche et tout ça, et le mec débarque, il te demande même pas comment tu t'appelles. Et bim, ça y va, et suce-moi et machin et tout. Et...
Ouais, c'est sympa.
Bah, c'est sympa, tu t'es tapé un beau mec, hein. Mais en vrai, au final, t'en tires rien, quoi. Tu te sens même un peu sale, tu vois. Tu dis, ok, le mec, il a débarqué, il t'a baisé. Bon.
Faut que je reprenne une douche.
Ouais. Ouais, puis je vais reprendre une deuxième. Donc, tu dis, bon.
Et tu l'as testé.
Je l'ai testé. Et puis après, tu commences à prendre le contrôle de ça. Parce que tu te dis, attends, si ça existe et que si ça plaît, c'est qu'il y a certainement des façons de faire, tu vois. Et à un moment donné, là, bon, ben moi, je... Là, c'était pas super, mais moi, je vais faire en sorte que ça le devienne, quoi. Et là, t'as des mecs qui te parlent et auxquels t'aurais jamais pensé imaginer les avoir dans ton lit, tu vois. Et c'est cool.
Et ça, c'est combien de temps ? Ça dure combien de temps, cette passade ? Enfin, si on peut dire une passade. Combien de temps ça dure ?
Ça dure bien 4-5 ans quand même.
D'accord.
de temps de découvrir tout ça, de te lâcher,
de finir toutes les applis,
d'essayer, de dire non, de réessayer d'autres trucs, de dire oui, de tenter. Mais j'ai pas du tout envie de me mettre en couple, j'ai envie de baiser.
D'accord. Et c'est quoi l'expérience la plus folle que t'aies faite ?
Bah, c'est une partouze.
D'accord.
Ouais.
À combien ? Pouf. On ne sait plus.
J'arrive à un stade où j'ai fait des plans cul avec des mecs, sauf que moi, je fais mes plans cul à ma manière. C'est-à-dire que le mec, il vient, on boit à l'apéro, on discute, on baise, il passe la nuit et c'est cool. Et puis, si on ne se revoit pas, on ne se revoit pas. Mais au moins, il y a eu un échange. J'ai un peu besoin de ça pour me faire mon scénario et kiffer avec le gars, quoi.
Et donc, vous étiez combien ?
Une petite quinzaine, je crois.
Une quinzaine ?
Ouais. En fait, c'était très bizarre parce que j'ai découvert donc que ça existait, hein, ailleurs que dans les films. Genre, on pouvait le faire avec des gens de tous les jours.
Et donc, tu vas dans une soirée ?
Et un jour, je découvre qu'il existe un site pour s'inscrire pour participer à des partouzes. Comme moi, je suis pas moteur, je suis pas leader dans le truc, je suis un peu suiveur. Je dis, bon, bah, écoute, je vais pas organiser mon truc. Je connais pas assez de gens. Puis, j'ai pas envie de parler avec des potes de tout ça, donc... Mais alors, l'inconvénient, c'est qu'elles sont photographiées et filmées.
Ah, c'est un inconvénient, oui.
Et après, les photos sont publiées sur le site internet. Alors, elles ne sont pas accessibles à tout le monde, tu vois. C'est des inscrits, c'est un mec qui gère ça de chez lui, donc il sait très bien, voilà. Mais voilà, et je fais, bon, bah, écoute, on floutera mon visage, quoi.
Ok.
Et donc, je m'inscris et j'y vais en me disant, mais je ne vais connaître personne et je vais baiser avec des gens que je ne connais pas. Alors, il y a ce côté un peu hyper excitant. De se dire, ok, c'est cool. Et puis à ce côté, un peu, ben, je vais nulle part. Enfin, je ne sais pas où je vais. Je vais en banlieue, dans un appartement que je ne connais pas, et je vais rencontrer des mecs que je ne connais pas avec qui je vais accessoirement baiser. Et s'ils ne me plaisent pas et tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on me fait signer un papier
pour décharge. Dire
une décharge. Le terme bien choisi.
Je t'en prie.
Et pour dire que j'autorise à ce que les photos soient diffusées, machin, etc. Et bon, je le fais. Et on se voit à poil, et puis voilà, les mecs arrivent, rentrent, s'en vont, machin.
Alors, question complètement naïve, mais sans aucune substance.
Sans aucune substance.
Totalement à jeun.
Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Bien sûr. Il y en a peut-être qui avaient pris des trucs, etc. Mais c'était pas du tout la soirée en mode dans le noir, débridée avec des mecs qui tracent des rails dans leur coin, etc. Pas du tout. Il y avait un film à la télé, un film porno, un mec qui filmait... des coups à boire, c'était hyper bon enfant, tu vois.
Mais 15 mecs à poil.
Mais l'objectif, c'était... Enfin, voilà, on était à poil dans une même pièce et puis on faisait ce qu'on voulait avec qui on voulait.
Ok.
Et moi, ça a commencé assez fort. Parce que je pense que comme j'étais un peu de la chair fraîche, les mecs ne me connaissaient pas, peut-être qu'ils se connaissaient, tu vois, un peu entre eux, qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Moi, j'étais le petit nouveau, donc tout de suite, ils se sont tous rués sur moi.
Ça, prenez un ticket.
Voilà, donc prenez un ticket, je ne suis pas contre. Hein, ils étaient plutôt bien les gars. Mais voilà, donc j'ai pris le temps, mais je me suis bien amusé.
Ok, donc c'était expérience cool, assez hein. Incroyable.
Ouais, ouais.
T'as expérience pas
assez incroyable. Si, bien sûr.
Ok.
Alors, pas tout de suite, pas le lendemain, hein, tu vois, c'était cool et tout ça, l'idée de l'avoir fait m'a plu, mais après je suis redevenu un peu plus classique, enfin mais voilà, sexuel avec des gars, je faisais des plans à ma façon mais sur les applis, toujours avec cette réticence de je suis mal foutu, j'ai peur que les mecs, tu sais, tu es sur les applis et sur les applis tu montes forcément des photos qui sont à ton avantage. Et quand les mecs passent la porte, t'as juste peur qu'ils fassent ah ben non, en fait, salut.
C'est ta hantise.
C'était totalement ma hantise. Donc je me sentais le besoin de dire, mais tu sais, j'ai un petit bourrelet par-ci, un petit bourrelet par-là, je suis pas très grand, j'ai du poil. Et les gars faisaient, ouais, pas de soucis. Et à partir de ce moment-là, je faisais, ok, ben viens, tu vois, ou j'arrive, tu vois, mais
t'es honnête sur ce que tu vends, quoi.
J'avais pas envie de me retrouver en situation d'échec. C'est horrible quand tu dis, putain, tu vas baiser avec un mec, c'est juste baiser. Mais le mec, tu le dégoûtes au point qu'il dise, ah ben non, en fait, je rentre chez moi. C'est un traumatisme, en vrai. Personne n'a envie de se retrouver dans cette configuration. Donc j'avais peur de ça, donc je mettais du coup je donnais l'image d'un mec pas du tout sûr de lui, donc c'est pas séduisant en plus, tu vois. Donc ça donne pas envie de te maquiller avec lui, mais en même temps, les applications sont faites pour baiser, pas pour se maquiller. Et donc voilà. Et après, j'ai fait ça longtemps. J'ai pas cherché à me maquiller parce que j'avais... J'étais pas dans ce mood-là. Après, ouais, tu dis, bon, je suis tout seul et tout ça, ça fait chier, mais... Mais voilà, puis après j'ai beaucoup bossé, j'ai monté ma boîte, donc j'ai beaucoup bossé, etc. Donc j'ai mis ça un peu de côté, et puis un jour j'ai eu envie de me lâcher grave, et un mec avec qui j'avais fait un plan cul me dit, ah bah tiens, enfin je le contacte, et je lui dis, bah tiens, est-ce qu'on peut se voir ce soir, est-ce que ça te tente et tout ça. Il me dit, bah je suis pas dispo, je fais une partouze. Je fais, bah ok, tant pis. Il me dit, tu veux venir? Et je fais, ben ouais, grave. Il me dit, je te préviens, c'est une partouze naturiste, donc quand on arrive, on se voit à poil, mais après, voilà, advienne. Parce que...
Et, advienne ce qui va se passer, quoi.
Advienne ce qui va se passer, donc on se voit à poil dans le salon, on boit des coups, machin, tout ça. Il y en a qui partent dans la chambre à côté pour aller baiser.
C'est sympa comme concept de soirée.
Ben écoute, c'est très sympa, surtout que c'était genre, je sais plus, en décembre 2012, tu sais, c'était cette espèce de truc de fin du monde. Je sais pas si tu te souviens, c'était le 12-12-2012 ou je sais pas quoi, où on pensait que tout allait être déréglé, que c'était la fin du monde.
On a eu la
tout
même chose en 2000.
Enfin... En gros, c'était la partouze de la fin du monde, quoi. Donc tu te donnes à fond, tu vois, dans ces cas-là.
Apocalypse.
Et là, c'était cool parce que je me sentais moins chair fraîche, tu vois. Mm-hmm. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie de faire. Et à un moment donné, je vois un mec rentrer dans la chambre et je suis tombé en amour de ce gars, quoi. D'accord. Putain, le gars... Oh je suis mais amoureux.
Physiquement, et t'as...
Ah ouais. Et on a baisé. Mm-hmm. Et en fait, cette partouze est devenue un plan cul avec ce mec, avec d'autres gars à côté, mais avec ce mec. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Et après, on est parti dans la salle de bain, on a fait des trucs un peu plus osés. Mm-hmm. Mais je vois que tu t'interroges.
Bah, je m'interroge. Je vois que tu t'interroges. Parce que je me dis, qu'est-ce qui est plus osé que la partouze, ou en tout cas... un moment de sexe avec des gens autour.
Ben il y a des pratiques.
D'accord.
Il y a des pratiques. Lui, je pense qu'il était bien perché parce qu'il avait pris du GHB, je crois. Mm-hmm. Et moi, j'ai pas forcément besoin de substances pour me lâcher.
Tu te
en plus,
pas.
J'ai peur de ça. Mm-hmm. Non, j'ai peur de la perte de contrôle. Et d'accord. Je peux perdre le contrôle. J'ai pas vraiment de filtre moi dans la vie. Quand j'ai envie de dire un truc, je le dis, que ce soit une connerie ou quelque chose de très franc. Et là, bah, du coup, j'ai déverrouillé toutes les portes et je me suis dit, bah, allons-y, on va kiffer, quoi. Le gars, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur un gars comme ça. Je kiffe grave. Allons-y, tu vois. Et on a fait, c'était mon premier plan euro.
D'accord.
Premier plan euro dans la baignoire. Dans la baignoire. Évidemment, bah, oui, on va éviter de saloper.
On respecte le
Non, mais c'était pas que ça. C'est-à-dire que c'était très fort. Il m'a initié à une pratique que je connaissais pas, mais en même temps, au-delà de ça, c'était juste... Enfin, moi, j'étais au nirvana de tout. Le gars était beau, il était bien monté, il était hyper sensuel, en même temps hyper bestial. Donc, quand il te propose ça, c'est un détail, en fait, finalement. Tu fais, bah oui, enfin, là, pour le coup, je m'en fous.
Tu es là pour l'expérience,
de toute façon. Tu fais ce que tu veux de moi, gars. Et il a fait ce qu'il voulait de moi.
Ok.
Et on s'est revus après quelques temps. Je l'ai recontacté moi le lendemain en disant j'aimerais bien finir ce qu'on a commencé, enfin en tout cas continuer.
Donc ça a été un amant ?
Ouais, ça a été un amant. Ça a été un amant quelques mois. Après, moi je suis tombé amoureux, pas lui. Mm-hmm. Je pense que je ne correspondais pas trop à ce qu'il recherchait. Et il m'a ouvert les yeux sur plein de trucs et notamment sur le fait qu'on puisse avoir une sexualité débridée sans être. Sans être sale, sans être irrespectable, sans être... Tu vois, tu peux rester quelqu'un de totalement intègre et avoir des kiffs sexuels
qui dépassent la norme.
Alors, je ne dis pas qu'on se pisse dessus tous les jours, hein, au petit-déj, pas du tout, parce qu'il y avait des trucs hyper tendres, hyper beaux, etc. Mais ouais, quand tu kiffes vraiment le cul, bah, tu peux passer à des stades supérieurs qui sont nouveaux, mais que t'aimes, et voilà.
Donc oui, c'était, ça, si ça se fait en confiance, en plus, avec quelqu'un qui te respecte...
En fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, on peut être en couple avec quelqu'un et se faire plaisir. On n'est pas obligé de rester dans le carcan du missionnaire. Tiens, ce soir, chérie, on mange une soupe et on baise et on regarde la télé. Pas du tout. On peut faire ça à l'extérieur, on peut faire ça avec d'autres mecs... et ça change rien. Okay. Tu vois, c'est en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, dans la vie, il y a l'amour avec tout ce que ça comporte, les sentiments, d'être une épaule pour quelqu'un, d'avoir une épaule pour soi, le cul, mais il y a le cul avec ton mec et il y a le cul plaisir, il y a le cul on fait l'amour et il y a la baise. Et la baise, si tu n'intègres pas de sentiments, tu peux te faire plaisir et faire ce que tu as envie de faire avec qui tu veux. Ça reste un passe-temps.
D'accord. Et ça ne détériore pas ton amour ou tes sentiments avec
ton compagnon. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Alors, c'était un peu erroné parce que moi, ce mec-là, il n'avait pas de sentiments envers moi. Donc, on n'était pas dans une situation de couple. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question de dire, mais à quel moment, si je suis en couple, je pourrais continuer à faire ça? À quel moment le cul pourra être aussi fun si je suis en couple? Il y a le cul, il y a l'amour. Est-ce que les deux sont indissociables? Est-ce qu'on peut dissocier le cul et l'amour tout en étant en couple? J'ai commencé à me questionner et à me dire, ben voilà, moi, si je suis en couple un jour, comment ce sera, quoi?
Ok. Et donc là, tu continues de tester plein de choses?
À partir de ce moment-là, pas vraiment.
D'accord.
Je continue à vraiment gérer ma boîte et à bosser beaucoup et j'arrive pas à faire 12 000 choses en même temps, donc je travaille.
Okay.
Je travaille et je mets vraiment ça de côté. Et puis comme je travaille, je fais moins attention à moi, je fais moins de sport, donc je grossis, je me sens un peu moche. Donc du coup, je ferme un peu les portes pour les mecs qui me... Voilà, j'estime qu'il n'y a pas de mecs qui peuvent être attirés par moi. Donc je mets vraiment ça de côté, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que j'ai été... pendant un an, je pense, sans aucune relation sexuelle.
D'accord, ta libido...
Ouais. Bah, zéro libido pendant quelques jours, et puis là, repique, mais bon, bah, tu te branles, hein, tu fais tes trucs. Mais en tout cas, j'ai pas ouvert la porte, quoi.
D'accord, donc pendant un an, il se passe rien, enfin, pas de... T'as pas de relation sexuelle avec des hommes.
Non.
À ce moment-là, les femmes, dans ta vie, plus du tout?
Plus de place. Plus de place dans ma vie pour les femmes. En tout cas, c'est pas du tout une question. C'est pas un sujet. Je me pose pas la question. Pour moi, j'ai rencontré des hommes. Ça m'a plu. Après, il y a plein de déconvenues au milieu gay parisien. Hein. La facilité, te dire tu pourras jamais construire un couple digne de ce nom parce que le sexe est toujours frappe toujours à la porte, que c'est facile de tromper son mec, etc. Moi, comme j'ai pas confiance en moi, j'estime que mon mec peut partir du jour au lendemain, comme il y en a partout, tout le temps. C'est hyper compliqué dans mon esprit d'être gay à Paris et que je vais pas pouvoir gérer ça, donc je ferme temporairement l'idée du couple pour moi.
D'accord.
À ce moment-là. Et le sexe, et le couple, et rien du tout. Ça n'a pas de place dans mon existence.
Ok. Donc, ça, c'est pendant un an. Et après, qu'est-ce qui se passe?
Après, j'essaye de me remettre un peu en selle. Je me dis que quand même, l'équilibre fait que le boulot, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi gérer sa vie privée et ses plaisirs personnels et charnels.
C'est joli.
Et je me remets sur les applications. Et je fais très, très peu de rencontres. Je parle beaucoup, mais je fais très, très peu de rencontres. Puis un jour, je vois sur une appli un gars qui est trop mignon et tout. Et je vois dans la description, parce que tu sais, on met ce que j'aime, ce que je recherche, ce que je suis, tout ça. Et ce que j'aime, il met les mecs un peu grassouillets.
Et je suis, c'est mignon, putain. Parce que quand t'en parles, t'as les yeux qui brillent.
Ouais.
Ouais.
Et on parle, et très vite, on échange nos numéros de téléphone, on échange des textos pendant une petite semaine. Et je l'ai invité à boire l'apéro à la maison.
Et donc?
Ça s'est fini en une nuit. Enfin, c'est-à-dire qu'il venait boire l'apéro, puis il a passé la nuit, quoi.
D'accord.
Mais je lui ai dit, je te préviens, moi, j'ai pas envie de cul pour le cul. Donc, on fera rien ce soir. Mais il m'a littéralement violé, le gars. J'ai pas pu résister, en vrai. Et ça, c'était l'autoroute du kiff.
Et ça, c'était quand?
C'était il y a un peu moins de 2 ans.
Et tu es toujours avec ce garçon?
Je suis toujours avec lui, ouais.
Ça se voit, j'ai même pas besoin de poser la question. T'as des yeux qui brillent quand on parle. Donc ça, c'est ton amoureux aujourd'hui?
Ouais.
Donc ça va faire presque 2 ans que vous êtes ensemble.
Ouais.
C'est une jolie histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Bon, ça, j'en doute pas une seule seconde quand je vois comment tu en parles. Et c'est une histoire de sexe qui se passe comment ?
On apprend à se découvrir, comme tout, comme à chaque fois qu'on démarre une relation, on apprend à découvrir l'autre, ce qu'il aime. On en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on part du principe que on n'a pas de temps à perdre et qu'il faut se dire les choses.
Vous avez le même âge ?
Non, il est plus jeune que moi. Mmh. On a 7 ans d'écart. Mais il est très mature. Il est très mature à ce niveau-là. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il aime pas, il sait ce qui l'excite, il sait ce qui l'excite pas. Et j'ai appris beaucoup de ça, parce que c'est-à-dire que ce que je te disais tout à l'heure sur le schéma de la sexualité en dehors du couple ou la sexualité avec le couple, un peu plan-plan, etc. J'ai appris avec lui, j'ai pu mettre en pratique ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'il y avait la baise et il y avait faire l'amour et qu'on pouvait très bien, dans des circonstances un peu fun, se dire « Oh là là, tiens, viens, on baise, on fait ça, machin. » Et on pratique des trucs pour le fun. Mm-hmm. Et ce qui n'empêche pas de faire l'amour quelques heures ou quelques jours après se prouver nos sentiments à travers ça.
D'accord, donc vous avez des expériences à plusieurs, comme ça se fait dans le milieu gay, ou pas du tout ?
Non, on n'en a pas eu, mais on ne se l'interdit pas.
D'accord.
On s'est très vite dit, lui, il se sentait pas de faire sa vie avec un mec et de baiser que avec un mec. Moi, je lui ai dit que, effectivement, pour moi, c'était impossible de construire un couple sur des années durant sans se faire plaisir par ailleurs, alors avec d'autres ou en dehors du couple. On n'a pas, pour l'instant, eu l'occasion. On commence à ressentir ce besoin de s'amuser avec d'autres garçons. On commence à le ressentir, mais on ne l'a pas mis en pratique encore.
D'accord.
Voilà.
Donc déjà, ne serait-ce qu'en parler, ça vous permet...
Mais depuis le début, on sait que si on veut être honnête avec nous, que forcément, un jour, ça va arriver. Ça n'empêche pas qu'on construise notre amour à deux. Mmh. Notre équilibre à deux, qu'on échange des choses,
des choses vraies.
Projets,
des choses comme ça.
On a des projets, mais qu'on peut aussi avoir du cul pour le cul, comme si on allait faire une séance de karting ou de bowling, quoi.
D'accord. Voilà.
Ce soir, on baise avec un mec.
De bowling.
De bowling. Et des grosses skis.
De bowling. Ok. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est ta sexualité avec lui.
Ouais.
Avec lui, t'as envie d'essayer des choses, plein de choses ? Ou vous êtes plutôt à voir ce qui va se passer ?
Non, il m'a montré des choses, il m'a fait découvrir des choses aussi, lui, dans des pratiques sexuelles qu'on a eues ensemble. Il a testé des trucs, alors des choses que j'ai kiffées, des choses que j'ai moins kiffées. Mais ce qui est cool, c'est qu'encore au bout de 2 ans, et ça fait que 2 ans, putain, on a l'impression que ça fait 25 ans,
mais
ça fait que 2 ans. Mais... c'est cool de découvrir encore des choses et pas de se dire un jour, tu sais, des fois tu te poses et tu fais bon, ben là on a tout essayé, j'ai tout testé. Non, en fait pas du tout. Mmh. Nous on sait qu'on a encore une marge de
c'est
progression.
C'est ça qui est formidable dans la sexualité d'ailleurs.
Même pas de progression, c'est d'évolution. C'est-à-dire que ça va évoluer avec le temps, ça va se patiner, tu sais. Et il y a des choses qui vont se passer et qu'on va découvrir encore à deux. Des choses que moi j'ai fait par ailleurs et que j'ai pas encore testé avec lui. Des choses que lui a testé par ailleurs auxquelles il m'a pas encore initié. Les trucs à plusieurs, par exemple, l'idée nous fait vraiment kiffer quand on en parle tous
ensemble.
Les deux, ça nous ouais avec d'autres mecs et tout ça.
Le fameux candolisme.
Le candolisme, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que tu acceptes, enfin tu fais en sorte que ton mec ait un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre devant toi sans que tu participes. C'est cet aspect un peu voyeuriste.
Bah c'est un peu ce qui peut se passer en partouze.
C'est un peu ce qui peut se passer. C'est pas l'objectif principal pour nous. Mais c'est un peu ce qui peut se passer, ouais.
D'accord.
Mais
et dans vos pratiques, qu'est-ce que tu peux me citer sans trop dévoiler votre intimité ?
Non, mais on aime bien s'attacher, par exemple.
BDSM ? Soft ?
Soft. On aime bien avoir un petit peu le dessus, ou sur l'un ou sur l'autre. Même si pourtant, c'était pas ma nature première du tout. Mais...
Oui, parce que tu as commencé à t'en parler de ta sexualité en tant que passif.
Ouais.
Ça
oui,
aussi,
mais
ça
moi, je suis versatile, en vrai.
Je suis versatile. Oh, c'est chic.
Et ouais, je suis top bottom.
Top top bottom, on dit. Je ne sais pas. Moi, j'en apprends tous les jours, tu sais. Top
ouais,
bottom.
J'ai pas de préférence par rapport à ça. Ça dépend du moment, ça dépend
de ton envie.
Je prends du plaisir dans les deux sens.
Top bottom.
Elle est horrible cette image.
C'est vrai. Non, n'imagine
je
pas.
Je prends du plaisir dans les deux situations et avec mon mec, c'est pareil. Mais j'ai pas cette. En fait, la domination pour moi, c'est pas quelque chose qui au quotidien me fait kiffer. Je ne ressens aucun plaisir à dominer quelqu'un. Mais dans le rapport sexuel, c'est pas que je le domine, c'est que de le voir contraint. Je sais que ça m'excite et donc du coup ça m'excite.
D'accord.
Vous trouvez mais c'est pas le fait que je sois supérieur qui m'excite, c'est le fait d'accord. de le voir kiffer, le fait que c'est compliqué hein, le schéma.
Mais souvent dans le rapport SM justement, c'est à tort de croire que celui justement qui soumet qui a le plus de pouvoir généralement, généralement.
Et là, en l'occurrence, nous concernant, c'est lui qui gère cette situation. Et c'est lui qui génère ça.
Ouais, c'est le soumis qui a le plus de, si on doit le dire, de pouvoir. Enfin, en tout cas, je sais pas trop comment. Ouais. Effectivement. Ouais.
Donc voilà, mais tu vois, clairement, on est vraiment à la limite de du plan 1-3 là. On sait qu'on arrive à un stade où on va avoir envie de passer cette étape-là.
Vous en discutez ?
Oui.
Ce sera avec un homme, forcément ?
Ouais. Ouais, ouais. Parce que lui, il n'est pas du tout branché meuf.
Il n'a pas eu d'histoire avec des femmes ?
Non.
D'accord.
Et moi, je n'ai pas forcément envie de repartir sur cette piste-là pour l'instant.
Oui, ça fait plus de 10 ans, du coup, que tu n'as pas touché une fille.
Alors, touché, si, hein, au quotidien, j'en touche régulièrement, mais pas de manière biblique, non.
Ok, donc ça c'est votre sexualité maintenant. Et du coup, qu'est-ce que ça va être votre futur ?
À partir du moment où on parle et où on se dit des choses, ce qui est notre cas, je pense que ça peut durer longtemps. Et à partir du moment où les sentiments sont là, c'est le nerf de la guerre. Après, pour le cul, il peut se passer 12 milliards de trucs. Tout dépend comment on évolue. Au quotidien avec ça dans notre esprit et aussi comment on se sent avec soi-même. Moi, je sais que demain, si mon mec me dit « Écoute, là, j'ai une opportunité, je peux faire un plan avec un gars, j'ai bien envie d'y aller », je ne vais pas être hyper chaud parce que j'ai encore mon problème avec ma confiance en moi et que j'aurais peur que le gars soit mieux que moi et que mon mec me dise « Bon, bah, finalement, c'était mieux avec lui, je me casse ».
Ça, c'est à toi de régler ça avec toi-même.
C'est à moi de régler ça avec moi-même. Mais du coup, ça influe forcément notre histoire de couple. En revanche, ce soir, quand je vais rentrer et qu'il me dit « Tiens, il y a un mec qui me plaît bien, est-ce que ça te dit qu'il vienne à l'appart ce soir ?» Pourquoi pas, tu vois ?
D'accord.
Parce que moi, l'idée me plaît, parce que je sais qu'il va kiffer, de savoir que mon mec kiffe, ça me fait kiffer.
Ça, c'est une pratique qui existe beaucoup dans le milieu gay.
Bien sûr.
Ouais.
En fait, ce qui est assez différent dans le milieu gay du milieu hétéro, c'est qu'on n'a pas cette hypocrisie, je trouve, de se dire on a envie d'autre chose. Après, peut-être que je ne suis pas hyper à l'écoute de ça ou hyper au courant, mais j'ai l'impression que dans le milieu hétéro, quand on a envie d'autre chose, on le fait de manière cachée, on le dit pas, il y a des maîtresses, il y a des amants, et puis peut-être que ça se sait, mais on fait l'impasse dessus parce qu'on n'a pas envie que culturellement ça se sache et de passer pour un couple libertin, machin, etc.
Oui, c'est une image plutôt frivole et,
ouais.
Et effectivement, comme tu parlais tout à l'heure d'équilibre, de gens intègres, etc. Ça paraît délicat de poser ça.
Mais en vrai, moi, les couples homo que je connais et qui durent depuis des dizaines d'années, c'est des couples ouverts.
Complètement.
Alors après, il y a différents niveaux d'ouverture. Hein. Moi, je connais des couples qui ne baissent plus du tout ensemble, mais qui ont une sexualité
hors du couple,
mais qui ne peuvent pas imaginer se séparer un jour parce que
c'est des partenaires
ils ont construit leur équilibre comme ça. Mais je connais aussi des couples qui ne fonctionnent que à plusieurs et pas à deux du tout. Et c'est pas une question d'ancienneté de couple, c'est pas au bout de 20 ans tu baisses plus du tout avec ton mec. C'est pas ça, il y a des couples très jeunes qui ne baissent plus du tout. C'est juste qu'ils ont dissocié l'amour du cul et qu'ils font l'amour, mais que par ailleurs, ils baisent avec d'autres gars parce qu'ils ressentent ce besoin-là. Et que Comme de temps en temps, tu as envie de te faire une planche de fromage, mais que tu n'as pas le droit, et ben, tu te la fais quand même. C'est un plaisir coupable. Mais tu es content et ce n'est pas grave. Le lendemain, tu n'y penses plus et on passe à autre chose.
C'est ce modèle-là qui vous plaît, en tout cas. C'est de garder une sexualité intime, de couple, d'amoureux. Mais vous autorisez, en tout cas...
Moi, ce qui me plaît, c'est me dire que je vais construire des trucs avec mon mec parce que j'ai envie que ça dure. Mmh. Parce que je me sens bien après.
C'est de ta vie.
Oui, c'est je vois, j'ai plein de on a plein de projets, on a envie de faire un bon bout de chemin ensemble, et mais c'est pas une contrainte, tu sais, j'ai l'impression qu'en le disant c'est une évolution normale.
Non, je l'entends pas comme une contrainte, je comprends que c'est plutôt un chemin qui est possible, qui va pas forcément être obligatoire, parce que parfois ne serait-ce qu'en parler suffit à ce que l'esprit de l'un et de l'autre s'autorise le fantasme. Parce que c'est vrai que c'est ce que tu dis, il y a ce plaisir coupable dont on parle, qui est bien ancré dans notre société judéo-chrétienne, de manger un plateau de fromage alors qu'on ne devrait pas. Ça s'applique aussi au couple, et c'est vrai que parfois, que ce soit hétéro ou homo, penser, quand tu fais l'amour avec ton compagnon ou ta compagne, et penser à quelqu'un d'autre, par exemple, jamais tu ne le dis ou tu tais ces fantasmes-là, parce qu'effectivement, tu aurais peur de blesser l'autre. Mais ce qui est intéressant dans ton discours, c'est ça, c'est qu'en fait, tu aimes tellement l'autre, et l'autre t'aime tellement, que vous vous autorisez à parler de vos fantasmes, de vos des clés de vos désirs, etc. Et effectivement, comme ça, sur le papier, c'est ce qui paraît le plus sain.
On trouve que c'est hyper sain et on est choqué de rien quand on s'en parle. Et pour moi, je pense que c'est ça notre avenir à tous les deux, c'est qu'on construit des choses solides, matérielles ou immatérielles, peu importe, mais que par ailleurs, ben, on sait ce qui est bon pour nous, pour notre nous-mêmes, hein, pas pour nous le couple.
Pour les individus.
Pour nous en tant qu'individus, que ben, d'aller voir ailleurs de temps en temps, ça peut même resolidifier.
Mmh. Et toi qui as été en couple avec une femme, tu penses que ce serait applicable ce même modèle avec une femme ?
Je pense qu'il y a des couples qui le gèrent comme ça, hein. Les couples libertins par exemple, c'est pas nouveau, les couples libertins, je pense qu'ils trouvent aussi leur équilibre comme ça. Malheureusement, je pense que c'est en marge par rapport à la société homosexuelle, le libertinage dans la société hétérosexuelle, c'est assez en marge. Et puis il y en a qui osent pas le dire, mais je pense qu'il y en a plein qui trouvent leur compte. Quand tu regardes sur les sites porno amateurs, etc., il y en a plein qui font du candolisme, il y a plein qui font du libertinage, et je pense que c'est leur schéma de... Au même titre que nous, on pourrait aller voir ailleurs. C'est pas propre aux homos, je pense que c'est naturel. En fait, la société de ce siècle nous a mis dans un carcan qui nous a obligés à être en couple de manière totalement normée.
Oui, monogame, disant, voilà,
vous
fidèle.
Êtes monogame, vous êtes hétéro, un mari, une femme, vous faites des enfants, vous faites l'amour, vous baisez ensemble, mais un couple, c'est à deux. Et ben, un couple, ça peut avoir des amis, ça peut avoir des loisirs, et ben, dans les loisirs, tu coches la case baise avec potes ou baise avec d'autres. Pour moi, ça fait partie des loisirs. Voilà. C'est une source d'adrénaline, c'est une source de... Et si tu veux l'intégrer, si tu veux intégrer ce loisir dans ton couple, tu te rendras compte que finalement, c'est un moyen de s'accrocher à l'autre aussi, de se raccrocher à ça et de se dire...
Oui, ça crée une complicité.
Putain, le kiff de savoir que ton mec, malgré le fait qu'il ait kiffé avec un autre mec et qu'il ait pris du plaisir, il revient chez toi, il revient avec toi le soir... Et qu'il aime toujours autant ta compagnie, faire l'amour.
Et puis ça solidifie aussi, parce que du coup, vous partagez davantage.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de secret, et que si, en tout cas, moi, c'est ma pensée, et c'est comme ça que j'imagine l'avenir avec mon mec, sexuellement, c'est d'être couple totalement libre, je ne sais pas. Je ne suis pas encore assez mature avec cette idée. Mais en tout cas, un couple ouvert, oui.
Ok, on arrive à la fin. T'as encore des
choses
à dire.
C'est passé tellement vite.
T'imagines. C'est quoi le mot de la fin, du coup ?
C'est compliqué, hein. Le mot de la fin, c'est...
Ça va être plusieurs mots, hein. Ça peut être une phrase.
Quelque non, part. Mais je pense que le sexe, c'est... il a différentes échelles dans la vie, mais il faut le prendre que pour ce qu'il est, c'est-à-dire du fun. Et quand tu as du sexe, avec du... quand tu as du fun en baisant avec ton partenaire, ça solidifie. Quand tu as du fun en baisant avec quelqu'un, ça te fait plaisir et ça te permet de t'évader. Donc je dirais la liberté de baiser, peut-être.
Merci beaucoup, infiniment.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion que j'en ai pris à échanger avec mon invité, que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance. Je vous invite à suivre le compte Instagram On The Verge Podcast. Et si vous avez le temps, merci de donner votre avis sur iTunes. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.